Radio Barque 25e, deuxième partie. Alors, nous annoncions tout à l'heure dans le sommaire que nous allions parler forcément de la grande manif de la semaine. Enfin, grande manif, on verra. Mais en tout cas, d'une façon particulière, puisque tu as vu là-dedans, Michel, une vraie journée de dupes. Alors, explication.
Oui, d'abord quand même, hein, quitte à me faire... ne pas me faire d'amis, en fait.
Oui, mais l'émission, pour ceux qui nous écoutent, n'est pas faite pour
mais
ça.
C'est pas, hein. Mais ce n'est pas le but de l'émission, ce n'est pas l'objet, de, effectivement, de notre chronique. C'est, il s'agit d'interpeller, de faire réfléchir un petit peu, même sous un ton ironique. Quand même, hein, quand même, Jean-Claude, madame, dans quel étrange pays vivons-nous, hein. Voilà des syndicats qui appellent à manifester contre un projet de loi El Khomri qui ne les concerne pas. Hein, je veux dire, la fédération CGT des services publics, c'est-à-dire les fonctionnaires territoriaux. En quoi les fonctionnaires territoriaux sont concernés par la loi en question?
Le syndicat FSU.
Sud-PTT. Enfin, on se demande pourquoi, en fait. Hein, j'ai même vu monter une intersyndicale des praticiens hospitaliers. Qu'est-ce qu'elle a à faire? Bon, en quoi elle les concerne? Côté enseignant, pareil, en fait, hein, le FSU, la CGT éducation, etc. Comme n'étaient pas non plus concernés les grandes entreprises du secteur public, hein, qui, comme par hasard, avaient déposé un préavis de grève pour ce même jour. Je parle à la SNCF, et à la RATP, manière de faire masse, effectivement, de faire comprendre, effectivement, que, voilà, etc. Et l'UNEF. Et l'UNEF qui s'y est mis avec ses cohortes d'étudiants en histoire, en fait, en lettres modernes, en sociologie, en fait, en histoire de l'art, en cinéma,
hein. Et à propos de l'UNEF, manipulé par les anciens de l'UNEF, ces carriéristes dont tu avais dit la dernière fois tout le bien que tu pensais.
Dans des cohortes, je dis ça, mais c'est pas péjoratif. Vous êtes d'étudiants dans ces disciplines dont tout le monde sait évidemment, hein, qu'ils sont destinés à exercer un jour professionnellement avec ces qualifications, hein, une activité dans une PME, PMI d'ici ou d'ailleurs, quoi. Hein,
ça tombe sous le sens,
ou dans le bâtiment ou ailleurs, mais on s'est dit, ouais, mais en quoi ils sont vraiment concernés? D'autant que dans ce pays, en fait, bon, il faut quand même rapidement le dire, hein, 24% en fait de cette classe d'âge, hein, des jeunes actifs, est au chômage aujourd'hui.
Oui, oui.
Hein. Le problème, c'est que ces actifs jeunes qui sont au chômage, eux, n'ont pas défilé dans les rues.
Bah, ou si peu.
Ils n'ont pas de voix syndicale, en fait. Ils n'ont pas défilé ou si peu.
Ils ne s'expriment pas. Les plus concernés ne s'expriment pas, en fait.
Bien sûr. Mais alors, en réalité, bon, je ne vais pas entrer dans le détail de l'analyse. Hein, tout cela, bon, est un prétexte qui cache mal, quand même, hein, sous cette vague de contestation de la gauche au pouvoir, celle qui, justement, ne l'est pas, hein, parce que bon, j'ai noté que dans certaines AG de Nanterre ou d'ailleurs, on mêlait la déchéance de nationalité,
oui,
la politique
migratoire,
la loi El Khomri, enfin bon, tout était mélangé là-dedans, et on voit bien, hein, et on sent bien qu'il y a plus que la loi El Khomri, en fait, et certains de ces articles qui posent problème, et que c'est cristallisé, en fait, autour de cette loi, hein, toute une série de revendications, de mouvements et de contestations, surtout de l'exécutif actuellement au pouvoir, grande partie de la gauche et de la gauche du PS.
Voilà, c'est ça. On arrive tu sais, il y avait jadis un grand film qui avait bien illustré la thèse du divorce, qui s'appelait Kramer contre Kramer. Là, on est PS contre PS. Oui. C'est ça qui est extraordinaire.
Non, mais...
PS versus PS. Qui s'y retrouve?
PS et la gauche de la gauche.
Qui s'y retrouve?
Et l'objectif est clair. Bon, ils veulent la peau, en fait, du couple en question. Alors, soit ils ont la peau en question, soit ils créent des conditions pour que le président sortant ne se représente pas. C'est ça qui est fait, effectivement.
On est vraiment dans la psychose du divorce. Là,
c'est, hein. C'est ça l'enjeu. Et c'est vrai que dans ce contexte, Hollande et Valls ne peuvent pas, en fait, reculer. Enfin, ils ne peuvent pas reculer, je veux dire par là qu'ils ne peuvent pas répondre à la demande de ce mouvement qui est le retrait pur et simple de la loi. S'ils le faisaient, ce serait un suicide politique, donc ils ne le feront pas. Conclusion, ils sont dans l'obligation de négocier avec les syndicats dits réformistes qui, eux, ne demandent pas non plus le retrait de la loi, comme la CFDT, pour tenter de trouver le compromis qui permettra effectivement de faire passer la loi 49-3 ou pas, bon, peu importe, au Parlement, de manière à ce que tout le monde en sorte par le haut et en sauvant la face. Et pour permettre effectivement à l'exécutif en question de reprendre un peu d'air et de pouvoir être encore dans le jeu politique à venir. Alors, ce n'est pas aussi simple que ce, je le dis, fait, de manière très abstraite, fait, et très analytique, comme je viens de le faire, mais c'est bien là, effectivement, me semble-t-il, l'analyse qu'il convient de faire de ce mouvement, et non pas mégoter sur les aspects qui sont aujourd'hui avancés par la gauche de la gauche. Oui, les conditions de licenciement sont scandaleuses, le retour à l'esclavage ou au servage, ce qui est complètement
avec des formules complètement déconnectées de toute réalité. Et l'on comprend donc ton titre, vraie journée de dupes concernant cette manifestation. Alors revenons un peu plus sur la Narbonnaise avec des sujets purement narbonnais. Un aspirateur qui aspire à une certaine sérénité artistique, mais qui ne la trouve pas.
Mais qu'a disjoncté, alors complètement, parce que c'est vrai que on pourra en reparler de cet aspirateur qui était destiné à recycler des ordures ménagères et qui maintenant expose des œuvres d'art contemporain, ce qui est une destination effectivement que personne n'avait imaginée, mais qui après tout, pour le valoriser ce lieu.
Après tout, la vie réserve parfois des surprises.
Exactement, exactement. Et puis, il n'y a rien de scandaleux là-dedans que de passer des ordures en fait, à des œuvres d'art, bien au contraire.
Hein. Oui. Donc voilà. Sans faire de mauvais
jugements. Disons pourquoi. Dernier invité, M. Louis Jam, qui est un photographe, qui avait été en résidence au parc naturel de la Narbonnaise, hein, et qui a tiré, paraît-il, de très belles photos, et qui, voilà, bon, collaboration,
exposition... Va en exposer quelques-unes.
Sauf que, le photographe en question constate, à tort ou à raison, je n'étais pas dans le...
cette affaire n'est pas d'une grande clarté, soyons honnêtes.
Constate que 25 de ses œuvres n'étaient pas arrivées à destination dans l'aspirateur, parce que le réceptionniste de la mairie, quand il a vu arriver des cartons destinés à M. Louis Jam, les avait renvoyés à l'expéditeur.
Il y a matière à interprétation, parler diplomatiquement.
Premier point. Et deuxième point, il souhaitait exposer des photos qui n'auraient pas été considérées par le propriétaire des lieux, donc la mairie de Narbonne, comme digne, enfin en tout cas comme devant être exposé au regard notamment de scolaires, de photos sur les migrants et sur quelques grands artistes contemporains, notamment comme Basquiat, présenté de manière nue, etc. Bon, bref.
Quant à dire qu'il y ait une volonté de censure de la part de la mairie, c'est aller vite en besogne, quand même.
Je laisse le terme censure, en fait, qui a été invoqué par ce photographe, ce que je constate, c'est que, à l'évidence, la communication entre un artiste qui, par nature, est quelqu'un de susceptible, quelqu'un de fougueux,
très égocentrique aussi,
très attaché à son œuvre, qui ont toujours des exigences très très fortes. C'est quand même, les responsables en charge de la culture à Narbonne n'ont pas découvert le caractère de ce monsieur,
on l'espère,
ils ont bien vu qu'au départ il y avait quand même quelques petits problèmes. Bref. En tout cas, le vernissage est maintenu, et pendant le vernissage, clash, pouf, disjoncte.
Voilà. Hein. Et alors, le clou du spectacle, maintenant.
Et il avait dit, si mes œuvres sur les migrants ne sont pas exposées, je vais recouvrir, en fait, d'un linceul, en fait, les photographies qui sont là, à l'exception quand même de celles consacrées, en fait, qu'il a tirées sur le parc. Ce qu'il a fait.
Voilà. Grâce à cette polémique, cette exposition est devenue une non-exposition.
C'est ton interprétation. Moi, je tends à penser que cette exposition, en fait, a réussi. C'était incroyable, paradoxe. C'est que grâce à cette disjonction, on a eu affaire à deux œuvres d'art. La première, l'exposition, en fait, des quelques photos du parc, et la deuxième, c'est ce qu'on appelle en histoire de l'art une performance de l'artiste, c'est-à-dire qu'il s'est mis en scène lui-même pour produire une œuvre d'art qui est aujourd'hui effectivement ce que la presse rapporte et qui est le recouvrement de ses œuvres et cette proclamation de non à la censure.
Un excellent numéro. Et pour terminer cette deuxième partie, une supplique au Racing, non pas écrite par nous, mais écrite par Laurent Rouquette, le chef d'agence de l'Indépendant, qui s'adresse au patron actuel du Racing et qui le supplie communiquer, de s'ouvrir un tout petit peu.
Ah oui, non, mais c'est exactement ce qui m'est venu à l'esprit.
C'est pathétique, presque.
Ah oui, c'est pathétique, c'est tellement une supplique. Alors, il faut lire quand même. D'ailleurs, j'ai l'intention l'intention de faire un petit billet sur le sujet dans les heures qui viennent, ce texte de Laurent Rouquette, mais vraiment, il est à genoux, intellectuellement, hein, et journalistiquement. Monsieur, donnez-nous enfin, en fait, de l'information. Nous n'en avons pas, hein, nous n'avons pas.
Bah, et, apparemment, il ne répond même pas, d'ailleurs, le propriétaire.
Et c'est scandaleux, parce que vous êtes financé par le, par la mairie.
Ce qui est vrai.
Vous êtes financé, moi, j'aurais tendance à penser, attendez, l'indépendant, ou toute la presse en général est financée aussi par le contribuable, hein. Donc, oui. Voilà, c'est pas pour ça qu'on vous demande d'être parfaitement communicant et informant, et qu'on exige de vous, faites une meilleure information tous les jours, dans la presse.
Oui. Mais peu importe. Toujours est-il que ce Racing reste de plus en plus mystérieux. On savait que l'omerta était une spécialité plutôt napolitaine, on découvre qu'elle est aussi australienne, apparemment.
Oui, mais j'avais fait observer quand même, hein, dans une chronique précédente, que après quand même, hein, la campagne de presse de l'indépendant, qui avait pris fait et cause pour un pseudo-Qatar, en fait, hein, pour un pseudo-fond.
Enfin, pris fait et cause, c'est peut-être beaucoup dire, mais enfin,
il
n'avait pas émis de gros doutes sur la véracité de l'affaire.
C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, le propriétaire du club a vécu ça comme une tentative de déstabilisation de la part de ce journal.
Ça, c'est vrai.
Et comme c'est un Australien qui jouait pas derrière, il jouait devant, hein, le Bellstorm, c'est quand même un garçon qui a pris des pins dans sa vie et qui s'est rendu.
C'est
quoi.
Un joueur de rugby, quand même, de haut niveau.
De ce point de vue, il n'est pas très communicant, quoi. Donc, il a dit, bon, tu m'as envoyé des marrons, je vais t'en envoyer quelques-uns aussi. Donc, pour le moment, blackout.
Voilà.
C'est vrai quand même qu'objectivement, il ne peut pas rester dans cette position, Rockielson, mais il va bien falloir qu'à un moment donné, il ouvre, effectivement, son esprit et puis sa communication.
Qu'il reprenne l'initiative en tant que patron du club.
Envers le Narbonnais, de manière générale, les supporters et puis les communicants divers et variés.
Voilà,
mais pour le moment, il n'a pas envie, quoi.
Il n'a pas envie. Attendons la suite. Nous en reparlerons dans deux prochains Radio Barque. On marque une deuxième pause.